Europe Matin,
le 5-7.
Sébastien Krebs.
Tout de suite, votre journal. Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
6h, c'est Europe 1.
As I prepare to hand power over to a new administration, I want you to know that the movement we started is only just beginning.
Alors que je m'apprête à passer le pouvoir à une nouvelle administration, je veux que vous sachiez que le mouvement que nous avons instauré ne fait que commencer. Donald Trump fait ses adieux alors que Joe Biden devient aujourd'hui le 46e président des États-Unis. Mais ses partisans ne pourront pas assister à l'investiture, celle-ci se déroulera sans public. Le nouveau président qui n'a pas de temps à perdre, il se mettra au travail dès sa prise de fonction et il entend bien réparer les dégâts de son prédécesseur. Nous serons avec notre correspondante à Washington. Dans ce journal aussi, l'épidémie de coronavirus regagne du terrain. En France, les foyers de contamination se multiplient. Et si la vitamine D contribuait à se protéger du Covid, loin d'être un remède miracle, elle pourrait tout de même contrer les formes graves de la maladie. Et puis quel avenir pour les musées? 70% de fréquentation en moins l'année dernière et ils ne sont pas prêts de rouvrir tout de suite.
À suivre les sports avec Jérôme Lacroix et mon invité inattendu qui nous emmène ce matin dans les coulisses de la Maison Blanche. Mais alors pas celle de Washington, une Maison Blanche en France, dans le Périgord. Oui, nous avons aussi une Maison Blanche en France, une réplique quasi à l'identique. Vous allez voir à 6h15, c'est assez étonnant. Bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
2 mois et demi après sa victoire à l'élection présidentielle et après les nombreuses tentatives de Donald Trump pour contester les résultats, c'est le jour J pour Joe Biden. Il deviendra tout à l'heure le nouveau locataire de la Maison Blanche après une cérémonie d'investiture totalement inédite. Washington est bouclé, 25 000 soldats de la garde nationale sont déployés et cette fois ce sont 200 000 drapeaux américains qui remplaceront le public, ce qui déçoit beaucoup d'habitants de la capitale fédérale. Alexis Guilleux.
Ama se balade à proximité de la Maison Blanche. Elle se dit frustrée de ne pas pouvoir assister à l'investiture du nouveau président.
Petite, je suis allée à l'investiture d'Obama, raconte-elle. C'était un moment vraiment spécial. J'ai l'impression qu'on me vole un peu cet instant. Une déception et un sentiment de vol partagé par son amie Madeleine. C'était un très long processus électoral, explique-t-elle. Et j'étais juste excitée de pouvoir célébrer à la fin la transition pacifique du pouvoir. C'est vraiment très triste que quelques personnes seulement puissent nous enlever cela. James, lui aussi, est sorti dans la rue avec son mari pour prendre le pouls du quartier. Nous devrions être des centaines de milliers ici à célébrer le transfert de pouvoir. Ça a toujours été notre façon de faire, souligne cet électeur démocrate. Trump a emmené notre pays dans un endroit sombre. Ce n'est pas une surprise. Comme il ne pouvait rien faire d'autre, il a fait en sorte que ce soit un jour sans célébration. Vu le dispositif de sécurité, James ne sortira pas de chez lui aujourd'hui, mais pas question pour autant de ne pas célébrer cette journée. Il sera dans sa bulle de quarantaine avec quelques amis. On va se réunir pour ouvrir du champagne et faire la fête. French, du champagne français, j'espère. Washington, Alexis Guilleux, Europe 1.
Eh oui, il n'y a que du champagne français. De toute façon, on va rester à Washington où on retrouve notre correspondante Sonia Dridi. Sonia, ce qui est sûr, c'est que Joe Biden ne va pas chômer. D'ailleurs, quelles seront ses priorités une fois installé tout à l'heure dans le bureau ovale?
Eh bien, le plus urgent pour Joe Biden, c'est de lutter contre la pandémie hors de contrôle dans le pays. Il veut aller vite et va signer dès cet après-midi toute une série de décrets. Il veut notamment rendre obligatoire le port du masque dans tous les bâtiments fédéraux et pour les voyages entre États. Il a promis 100 millions de vaccinations en 100 jours et la mise en place d'un protocole sanitaire strict pour rouvrir les écoles. À peine arrivé à Washington hier soir, il a participé à une commémoration pour les 400 000 victimes du Covid aux États-Unis. Il s'est exprimé ému depuis le majestueux Lincoln Memorial.
Pour guérir, nous devons nous souvenir. Et c'est difficile parfois de se souvenir. Mais c'est comme cela que l'on guérit. C'est important de le faire en tant que nation.
Plus généralement, Joe Biden veut réparer les dégâts de son prédécesseur et pour cela, il va détricoter un certain nombre de mesures. Il devrait annoncer très vite la fin du Muslim Ban qui interdit l'entrée sur le territoire américain aux ressortissants de plusieurs pays musulmans et l'arrêt de la construction du mur entre les États-Unis et le Mexique. En ce qui concerne l'économie, il a déjà annoncé un plan de relance de 1900 milliards de dollars qui devra lui être approuvé par le Congrès. Au niveau international, sa première mesure sera de rejoindre l'accord de Paris sur le climat.
Et Sonia, quel est l'état d'esprit du nouveau président ?
Alors on sait déjà que le thème de son discours d'investiture sera axé autour de l'unité nationale. Ce sera son grand défi, réconcilier les Américains. Lui qui a passé des dizaines d'années à faire des compromis avec les Républicains au Sénat est catastrophé de voir un pays aujourd'hui si divisé. Il est pressé de marquer sa différence de ton et de style avec Donald Trump. Joe Biden, dont la vie a été marquée par de nombreuses tragédies, a fait de l'empathie sa marque de fabrique. Il va tenter d'apaiser une Amérique qu'il ne reconnaît plus.
Sonia Dridi, correspondante d'Europe 1 à Washington.
Et on reviendra tout à l'heure sur les enjeux de cette présidence Biden et de ce tournant américain avec mon invité à 6h40, l'éditorialiste au New York Times, Roger Cohen. Il est 6h05 sur Europe 1. L'autre grand titre ce matin, c'est le variant anglais du coronavirus qui est désormais présent dans 60 pays, selon l'OMS. En France, d'ailleurs, les chiffres ne sont pas bons.
Et le nombre de patients hospitalisés en réanimation continue d'augmenter et ce fameux variant du virus continue d'inquiéter les autorités sanitaires. D'ailleurs, le gouvernement envisage sérieusement la piste d'un troisième reconfinement. Pendant ce temps-là, les nouveaux foyers de la maladie se multiplient sur le territoire. Ça se voit notamment dans les hôpitaux où le nombre de tests positifs est aussi en augmentation, comme dans celui de Compiègne-Noyon, par exemple. 160 patients Covid en ce moment, ainsi que 75 membres du personnel.
Ouais, si la situation reste gérable, selon Catherine Ladger, la directrice de l'hôpital, ces chiffres suscitent malgré tout pas mal d'interrogations.
Le taux d'incidence dans le bassin de Compiègne et de Noyon sont plus élevés que la moyenne nationale et sont plus élevés aussi que la moyenne régionale. Ils se sont particulièrement emballés ces dernières semaines. Nous avons fait tester un certain nombre de patients ou de soignants pour le variant anglais. Ce n'est pas ça. Nous n'avons pas trouvé de variant anglais chez nous et nous avons demandé de nouvelles études pour repérer s'il y a deux nouveaux variants non identifiés et ces résultats ne sont pas encore connus.
La directrice de l'hôpital de Compiègne-Noyon avec Jean-Jacques Herry. La campagne de vaccination se poursuit. 500 000 Français ont déjà reçu une première injection. Mais on va parler ce matin d'un vieux remède qui pourrait contribuer à réduire l'infection du Covid. Ce n'est évidemment pas un médicament miracle. Il s'agit simplement de la vitamine D. 6 associations de médecins lance un appel pour encourager son utilisation. Victor Dolan.
Une grande étude norvégienne sur près de 70 000 personnes avait déjà fait le lien entre une consommation d'huile de foie de morue riche en vitamine D et la réduction des infections au Covid. Depuis, plusieurs études assurent que la vitamine D limiterait en fait l'orage cytokinique responsable des cas graves du coronavirus. Alors attention, ce n'est pas un remède miracle, mais un moyen de plus à côté des gestes barrières pour lutter contre la maladie. David de la Doucette, gériatre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, loue les vertus de la vitamine D.
On sait qu'elle est utile pour booster les défenses immunitaires. Or, on a réalisé que le fait d'être carencé en vitamine D est un facteur de risque par rapport au Covid.
Le problème, c'est que 40 à 50% de la population française manque de vitamine D et ça grimpe à 80% chez les personnes de plus de 70 ans. La vitamine D, on la retrouve dans l'alimentation, le lait, les œufs, le poisson, mais aussi dans les rayons du soleil. Et comme on en manque cruellement en hiver, les signataires de cet appel recommandent une prescription de votre médecin traitant pour réduire justement ces carences.
Victor Dolande, du nouveau dans l'affaire de la disparition de Diarisso, cette étudiante sénégalaise qui n'a plus donné signe de vie depuis le 4 janvier. Une proche de la jeune fille affirme au journal Le Parisien que Diary est vivante et qu'elle va bien. Il faut, je cite, la laisser tranquille. C'est donc une disparition volontaire. Les enquêteurs tentent toujours d'établir un contact avec elle.
Pour la première fois en 3 ans, Jean-Marc Reiser reconnaît son implication dans la mort de Sophie Le Tan. L'étudiante de 20 ans avait disparu en septembre 2018 dans la banlieue de Strasbourg.
Le cousin de Sophie Le Tan, Laurent, est encore sous le choc. Écoutez.
On ne s'y attendait pas du tout. Des aveux de Jean-Marc Reiser et on est encore sous le choc aujourd'hui. Après tant d'années de déni et de mensonges, pourquoi tout d'un coup il a changé d'avis ? C'est un soulagement, mais le soulagement n'est pas pour tout de suite, il n'est pas immédiat. La vérité est dure à entendre, même si on savait qu'il était coupable depuis le début. Je ne pense pas qu'il ait dit toute la vérité. On verra bien d'ici le procès comment les choses vont évoluer et puis si jamais Monsieur Reiser ouvrira son cœur, il nous dira exactement ce qui s'est passé. Mais bon, l'essentiel c'est que la vérité éclate enfin. Ça permettra à la famille de pouvoir avancer maintenant. On puisse tranquillement récupérer Sophie et faire le deuil.
Un témoignage recueilli par Mélina Fachin. L'ouverture aujourd'hui de la plateforme Parcoursup. Les élèves de terminale pourront formuler jusqu'à 10 vœux d'orientation. Dans un contexte de grande incertitude, en cas de détérioration de la situation sanitaire, les épreuves du bac prévues en mars pourraient être reportées ou annulées.
C'est aujourd'hui que les lieux culturels seront fixés, même si il y a assez peu d'espoir que les cinémas, les théâtres et les musées puissent rouvrir leurs portes prochainement.
Les musées qui traversent une crise sans précédent avec une baisse de fréquentation de plus de 70% en 2020. Le Louvre, pour ne citer que lui, accuse une perte de recettes de plus de 90 millions d'euros. Et l'inquiétude grandit pour les musées privés non subventionnés particulièrement impactés. Diane Chenouda.
D'abord, les musées perdent beaucoup d'argent, plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois pour le musée privé Mayol, comme en témoigne son directeur Olivier Lorquin.
Bah, j'ai réduit au maximum, j'ai mis donc toute mon équipe au partiel. On coupe les frais au maximum et naturellement, je perds de l'argent, qu'est-ce que je vous dise. Même en réduisant les frais, c'est douloureux.
Ce qui est pénible aussi, c'est le manque total de visibilité.
On a un couvre-feu, on a peut-être un confinement qui nous retombe dessus, il y a des variants. Donc on est dans une sorte de flou artistique épouvantable et je suis vraiment dans un état, même avec les projets d'exposition, on ne sait pas... On ne peut pas faire de projet comme ça sur les deux mois à venir.
Même désarroi pour le responsable Île-de-France de Culture Espace, Foulque Daboville, qui gère le musée Jacquemart-André ou le centre d'art à Aix-en-Provence.
La situation financière, elle est bien sûr catastrophique. On perd 60%, plus de 60% de notre chiffre d'affaires. C'est absolument considérable. Le système d'aide, aussi vertueux soit-il, ne remplacera jamais le fait qu'on puisse travailler dans des conditions normales.
Et la situation commence à peser sur le moral de tout le monde, confirme-t-on aussi au musée des impressionnismes à Giverny, qui perd également des centaines de milliers d'euros.
Ediane Chenouda. Et puis c'est une conséquence assez insolite de la fermeture des musées. Ça se passe en Italie. Un Salvator Mundi, tableau de l'atelier de Léonard de Vinci, a été retrouvé dans l'appartement d'un Napolitain caché en haut d'une armoire. En fait, le tableau était accroché dans le musée d'une basilique du centre historique de Naples et cela faisait 3 mois que la pièce n'avait pas été ouverte à cause de la pandémie. Résultat, aucune plainte de vol n'avait été enregistrée.
Personne n'avait remarqué qu'il avait disparu.
Bah non.
C'était le journal de Sophie Echen sur Europe 1, 6h12.